Chapitre 7. L'incroyable machine. Récapitulons ce que nous avons vu jusqu'ici. Le sommeil est un processus vital au cours duquel l'esprit et le corps se débarrassent des toxines, les cellules se restaurent, la croissance se met en place et les expériences sensorielles sont enregistrées, traitées et analysées. Manquer de sommeil a un effet immédiat sur les performances, le jugement et l'humeur et est le signe avant-coureur de graves problèmes de santé à venir. Personne n'est programmé pour souffrir d'insomnie. L'insomnie est la conséquence de certains choix de vie qui inondent le cerveau de substances naturelles ou non, contrecarrant le processus instinctif du sommeil. Ce sont des choix que nous faisons en tant qu'individus, mais nous ne les faisons pas librement. Les personnes qui nous inspirent, la publicité et nos addictions nous influencent au point que nous les considérons comme des choix naturels. Mais lorsque l'on prend le temps de remettre en question ces différents lavages de cerveau, on s'aperçoit que ces choix sont loin d'être naturels. À ce stade, de premiers doutes peuvent s'insinuer. Vous voulez dire que je dois renoncer à tous les plaisirs de l'existence? Je ne veux pas changer de mode de vie, j'ai juste besoin de dormir. Rassurez-vous, on ne vous demande pas de renoncer à quoi que ce soit ni de sacrifier des plaisirs. L'objectif de cette méthode est d'aider les gens à vivre une vie plus heureuse et plus saine. Certainement pas de les faire souffrir. Réagiriez-vous de la même manière si un médecin vous disait que vous souffrez d'un grave problème cardiaque? Certaines personnes, c'est vrai, continuent à boire, à fumer et à se gaver de cochonneries parce qu'elles préfèrent vivre ce qu'elles appellent une vie pleine plutôt que de vivre plus longtemps en se privant de ce qu'elles pensent aimer. Mais quand la crise cardiaque survient, tous souhaiteraient pouvoir remonter le temps. Surtout, ils s'aperçoivent qu'ils sont passés à côté de l'essentiel. Vivre avec un grave problème de santé, ce n'est pas vivre pleinement sa vie. Or, comme nous l'avons montré, l'insomnie est un problème de santé grave. Si vous avez le moindre doute à ce sujet, réécoutez le chapitre 2. Quand ils sont sensés, les patients qui souffrent de pathologies cardiaques tiennent compte des conseils de leur médecin et modifient leur mode de vie en conséquence. Ils ne font pas alors l'expérience d'une vie de privation, mais ils retrouvent au contraire leur vigueur, leur lucidité et renouent avec une vision plus positive du monde, surtout s'ils ont utilisé cette méthode. Ils sont de nouveau en phase avec la nature. Du fait des lavages de cerveau dont nous sommes victimes, nous rejetons les modes de vie que la nature a conçus pour nous. Au lieu de quoi, nous multiplions les comportements autodestructeurs et nous persuadons qu'ils nous procurent du plaisir, même si nous savons au fond de nous qu'ils font tout le contraire. Mode d'emploi. La voiture est une machine très sophistiquée, composée de nombreuses pièces détachées et de circuits électriques complexes, qui nécessitent qu'on vérifie régulièrement leur bon fonctionnement. C'est pourquoi les constructeurs automobiles équipent leurs produits d'un système d'alerte. Si votre niveau d'huile est bas, un voyant s'allume. Si vos pneus ne sont pas assez gonflés, un autre voyant clignote. Si le moteur surchauffe, on vous le signale aussi, etc. Si vous n'êtes pas sûr de ce que le voyant signifie, le manuel de l'utilisateur est là pour vous l'expliquer. Il vous suffit de le consulter pour trouver la cause du problème et faire le nécessaire pour le résoudre. Le corps humain est une machine encore plus sophistiquée. Il possède lui aussi un système d'alerte qui vous envoie un signal clair lorsque quelque chose ne va pas. Ce système s'appelle la douleur et il ne requiert aucun manuel d'utilisation. Elle indique exactement où se trouve le problème et quelle est sa gravité. Il existe plusieurs niveaux de douleur, de la gêne légère que l'on ressent après une mauvaise nuit à la souffrance la plus sévère. Pour éviter que la première ne se transforme en la seconde, il est conseillé de réagir rapidement. Mais au lieu de prendre la douleur pour ce qu'elle est, une fonction importante pour notre survie, on la traite comme un désagrément inutile et on l'endort à coups de médicaments. Imaginez qu'un voyant s'allume dans votre voiture. Au lieu de régler le niveau d'huile, vous collez un morceau de ruban adhésif sur le tableau de bord pour ne plus le voir apparaître. C'est sûr que vous ne serez plus embêté par le signal d'alarme, mais vous devrez bientôt dire adieu à votre voiture. C'est exactement ce que l'on fait lorsqu'on prend un analgésique. Plutôt que de s'attaquer à la source du problème, on éteint le voyant. Vos sens font eux aussi partie de ce système d'alerte. La vue, l'odorat, le toucher et le goût jouent tous un rôle dans la détection des poisons. Regardez un chat et sa nourriture. Il la regarde d'abord à bonne distance, puis il s'approche et la renifle. Il peut la repousser de la patte, puis si tous ses sens sont satisfaits, il osera la goûter, d'abord timidement. Nos sens jouent le même rôle. On peut savoir si une pomme est pourrie en la regardant. Quand elle est tout juste blette, Elle semble comestible à la vue, mais elle a une odeur désagréable et reste molle au toucher. Si vous en prenez malgré tout une bouchée, le goût sera si désagréable que vous la recracherez aussitôt. Une expérience de ce genre pourrait vous dissuader de manger des pommes un certain temps. Personne ne vous poussera à persévérer. Quand on boit de l'alcool ou qu'on fume pour la première fois, nos sens essaient de nous avertir du danger. Personne n'aime l'odeur ou le goût au début. Souvent, cela nous rend malade. Le système de protection du corps essaie d'empêcher l'absorption du poison puis de l'expulser. C'est un mécanisme ingénieux. Pourtant, on pense mieux savoir que lui ce qui est bon pour nous et on essaie le poison encore et encore jusqu'à développer une tolérance. On appelle cela se forger le goût. En réalité, on perd nos repères. Le défaut de l'armure. Les êtres humains s'infligent des souffrances que le reste du règne animal ne s'infligerait jamais. On ne voit pas d'animaux sauvages toxicomanes souffrant d'obésité ou de troubles du sommeil. Alors comment se fait-il que les êtres humains, espèce la plus intelligente de la planète, soient victimes de tant de maux qu'ils s'infligent eux-mêmes? La réponse se trouve dans le mot « intelligent » lui-même. La principale différence entre les êtres humains et les animaux sauvages est que les animaux survivent grâce à leur instinct. À l'exception de ceux dont le régime alimentaire est contrôlé par l'homme, animaux de compagnie, et ceux qui se nourrissent de nos déchets alimentaires largement addictifs, animaux nuisibles. Les humains s'appuient également sur leur instinct pour survivre, mais c'est leur intellect qui leur a permis de dominer le règne animal. Il leur a donné la capacité d'apprendre et de transmettre leur savoir pour devenir une espèce hautement sophistiquée, capable non seulement de construire des structures et des machines fantastiques, mais aussi d'apprécier l'art, la musique, la spiritualité, etc. L'intellect est un outil merveilleux, mais il peut monter à la tête. Il est aussi responsable de notre égarement. Au lieu de tirer parti des avantages que Mère Nature nous a donnés pour mener une vie paisible, saine et heureuse, on consacre un temps considérable à l'autodestruction. On a ainsi inventé des moyens toujours plus sophistiqués de s'entretuer. Au quotidien, les comportements que l'on adopte contribuent à maltraiter nos corps et nos esprits. Parce que notre intellect a pris le pas sur nos instincts, nous sommes devenus une espèce qui se nourrit de junk food, largement sujette à la toxicomanie, à l'angoisse, au stress et à la fatigue. L'instinct est le kit de survie que Mère Nature nous a donné. Il nous indique quand et quoi manger. Il nous avertit d'un danger. Il nous aide même à trouver un compagnon qui nous corresponde. Mais il arrive qu'il entre en conflit avec notre intellect. Nous avons alors tendance à écouter les leçons que les autres humains nous ont apprises. Pourquoi ? Parce que l'instinct nous donne souvent la réponse que nous ne voulons pas entendre. C'est précisément ce conflit qui vous fait douter de l'efficacité de cette méthode. Il vous est difficile d'accepter que vous pourriez avoir à changer certaines de vos habitudes parce que vous êtes convaincu qu'elles vous rendent heureux. Cette tendance à faire confiance aux opinions des autres plutôt qu'à l'instinct est le défaut de la machine humaine. Lorsque l'on prend des décisions basées sur des informations erronées, comme boire de l'alcool pour mieux faire face au stress, le bien-être en pâtit. L'intellect peut causer un grand bonheur comme une extrême détresse. Le choix nous appartient. Alors pourquoi optons-nous si souvent pour celui de l'autodestruction? C'est très simple. Nous ne réalisons pas toujours que nous avons le choix. Comment on nous lave le cerveau? Lavage de cerveau peut sembler une expression très forte. Elle évoque les films d'espionnage, les régimes totalitaires et le Big Brother, inventés par George Orwell dans 1984. Personne n'aime imaginer qu'on lui lave le cerveau. On a un mal fou à accepter que ce soit le cas. Mais depuis que l'on connaît mieux les stratégies utilisées par les médias sociaux pour créer de l'addiction, on commence à mesurer à quel point on est susceptible de se laisser manipuler et contrôler par d'autres humains sans même s'en rendre compte. Il ne s'agit pas d'une théorie du complot. On parle simplement des forces du marché qui sont à l'œuvre au quotidien. Depuis des décennies, les annonceurs manient l'art de la persuasion, mais ils ne sont pas les seuls. À notre niveau, nous en faisons, nous aussi, usage les uns sur les autres. Si les êtres humains souffrent d'autant de maux qu'ils s'infligent eux-mêmes, c'est parce qu'il y a d'autres êtres humains qui ont tout à y gagner. Nous méprisons tous le petit dealer de quartier qui offre une première dose aux adolescents à la sortie du collège pour les rendre accros et leur vendre les suivantes à prix d'or. Mais c'est le même modèle commercial qui rapporte des milliards d'euros à de nombreuses entreprises dites « respectables ». On nous propose des produits gratuits au départ, dont les prix montent dès que l'on ne peut plus s'en passer. On tombe dans le piège parce qu'on pense aimer tous ces petits cadeaux. On croit qu'ils vont nous rendre plus heureux. Personne ne fait le choix de devenir dépendant pour le reste de sa vie. Personne ne boit son premier verre en se disant « Super, je suis en passe de devenir alcoolique ». On prend ce verre parce qu'on pense que c'est bien. Les fabricants n'ont même pas besoin de nous en persuader, nous nous entraînons les uns les autres. La société, nos pères, nos modèles, nous poussent tous à adopter ces comportements autodestructeurs. Nos croyances sont forgées par des années entières de lavage de cerveau. Face à une telle pression, n'est-il pas étonnant que nous soyons si nombreux à nous retrouver pris au piège? Se défaire de ces illusions. Il y a deux grands mythes qui nous précipitent dans ce piège et nous y maintiennent par la suite. 1. Le mythe selon lequel boire, fumer, manger des cochonneries, jouer, brûler la chandelle par les deux bouts, procure du plaisir ou sert de béquille. 2. Le mythe selon lequel arrêter ou changer de comportement est difficile et plonge nécessairement dans la tristesse. Après tout ce que nous venons de dire sur le lavage de cerveau, vous vous demandez peut-être « Comment puis-je savoir que cette méthode n'essaie pas elle aussi de me manipuler ?» C'est bien que vous vous posiez la question et que vous continuiez à le faire. Plus vous vous poserez de questions, plus la vérité vous apparaîtra clairement. On est exposé dès la naissance à un lavage de cerveau de la part de nos proches, de la société en général, de la télévision, des films, de l'industrie alimentaire. Dans un même temps, on est poussé à accorder de la valeur à des plaisirs illusoires par le mécanisme propre aux diverses addictions ou troubles du comportement dans lesquels ceux-ci nous plongent. C'est comme si on tirait sur un élastique des deux côtés en même temps. L'élastique devient de plus en plus tendu et s'approche du point de rupture. Cette méthode propose de le détendre doucement, progressivement et avec sensibilité jusqu'à ce qu'il reprenne sa forme initiale. Cette méthode est un contre-lavage de cerveau. Gardez-le en tête. On a la chance de disposer d'un moyen infaillible pour découvrir la vérité, s'appuyer sur nos sens et nos instincts. C'est pourquoi il faut suivre la troisième instruction, rejeter tout ce qui contredit Mère Nature. Si vous avez fait l'exercice de l'alimentation en pleine conscience proposé dans le chapitre précédent, vous avez eu un avant-goût, littéralement, du pouvoir de vos sens et de vos instincts. Ils sont capables de prendre le dessus sur le lavage de cerveau lorsque l'on prend la peine de se reconnecter à eux. Essayez d'appliquer cette méthode à tout ce que vous prenez pour des plaisirs, mais qui a un impact négatif sur votre sommeil. Vous commencerez ainsi à vous défaire de l'influence du premier mythe. Mettez vos plaisirs au défi de répondre aux questions suivantes. Cet aliment a-t-il vraiment bon goût? Est-ce que j'aime cette odeur? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que cette cigarette me donne réellement confiance en moi? Est-ce que je me sens plus détendu? Est-ce que ce café m'aide à me concentrer efficacement? Est-ce que boire me rend plus divertissant, intéressant? Est-ce que cela me plaît? Ou bien, est-ce que je prends pour une sensation agréable au toucher, au goût et à l'odorat, la joie temporaire d'avoir ma dose? Est-ce que je confonds le bref soulagement d'avoir répondu à mon envie avec un véritable sentiment de détente? Est-ce que je confonds la fin de la distraction que constituait le manque avec une concentration accrue? Est-ce que je prends pour de la confiance en moi la perte de conscience de qui je suis? N'oubliez pas que le but de tout ceci est de vous aider à trouver le sommeil dont vous avez besoin. En vous posant ces questions, vous commencerez à voir au-delà des apparences. Votre rapport à ces habitudes changera de lui-même. Vous ne verrez plus le changement comme un sacrifice. Le génie de l'incroyable machine qu'est notre corps, c'est qu'elle est conçue pour nous guider vers des plaisirs authentiques. Le vrai bonheur, c'est de vivre en accord avec ses instincts. Lorsque vous vous posez les bonnes questions, que vous accordez aux réponses que vous donnent vos sens l'attention qu'elles méritent, la vérité apparaît. Cela semble d'une simplicité déconcertante. Et ça l'est. Ce qui semble le plus fou, c'est combien les autres méthodes compliquent les choses. On traverse la vie sans jamais se poser ces questions. Pourquoi? Parce que personne ne nous dit de le faire. C'est là où cette méthode est différente. Et c'est pourquoi, grâce à elle, beaucoup ont réussi à surmonter leur comportement autodestructeur là où les autres méthodes avaient échoué. Jusqu'à aujourd'hui, on estime qu'elle a aidé plus de 50 millions de personnes dans le monde.